Bonjour. J'essayais la semaine dernière, à propos des mœurs, et donc du mariage, et donc de la vie du couple, et donc de la famille, de faire clairement la différence entre ce que l'on peut appeler les mœurs, ce que tout le monde pense, et ce que tout le monde pense qu'il est bien de faire, et donc ce que tout le monde fait, ou la majorité. Et les opinions qui vont à l'encontre des conformismes sociaux, surtout quand les conformismes sociaux légitiment des conduites qui vont contre la liberté humaine, qui vont contre le bien véritable des hommes, et des femmes, et des enfants, et des vieillards. Et si les mœurs s'établissent de cette façon, c'est souvent parce que c'est la pente vers laquelle on est tenté de glisser pour toutes sortes de raisons. Ça peut tenir à des raisons économiques, par exemple des facilités données financières pour des questions d'impôts. La responsabilité des politiques, à ce moment-là, est inexcusable aux yeux de l'avenir, aux yeux des générations futures. Ça peut tenir aux conditions de logement, parce que les gens s'attrapent, les foyers cassent parce que la vie est insupportable. Là aussi, les responsabilités politiques à long terme et les responsabilités de tous les gens compétents, que ce soit les architectes, les urbanistes, les sociologues, les aménageurs. Bref, chacun a sa part de responsabilité, d'une manière ou d'une autre, à plus ou moins long terme. Ça peut aussi bien être les éducateurs. Ça peut être ceux qui sont chargés aussi de la santé publique. Ça peut être chacun. Il ne faut pas dire qu'on n'est pas responsable. On est toujours responsable de quelque façon. Mais on est plus ou moins clairement responsable. Quand on est entraîné dans une foule, ben on s'y trouve. Réfléchissez bien à ça, parce qu'on a, au cours des grandes catastrophes de notre siècle, qui est particulièrement un siècle de civilisation de masse, on s'est rendu compte que le conformisme qui engendre l'irresponsabilité n'est pas une excuse. Du moins, c'est ce qu'on a dit devant les horreurs de la dernière guerre mondiale, où on a même fait des procès, on continue d'en faire, aussi bien actuellement il y a des affaires, des jugements, des procès, des tribunaux qui sont instaurés pour juger les crimes contre l'humanité, et on pense au Rwanda, on pense en Bosnie, mais la question c'est que les gens qui ont été entraînés dans une foule pour tuer, ou pour torturer, ou pour violer, est-ce qu'ils sont responsables? Si un homme, une femme dit « Moi, j'ai fait ça parce que tout le monde le faisait, j'ai pris ma machette et j'ai tué. » Ou bien « On m'a dit que c'était un ennemi, je l'ai tué. » Ou bien « Tous les copains ont violé les femmes de ce village, j'étais avec eux, je l'ai fait. » Alors on leur dit « C'est pas de ta faute. » Difficile à dire, hein. Et devant de telles horreurs, on dit « Oui, mais il y a une responsabilité personnelle. Vous ne pouvez pas dire, comme certains l'ont fait, « Je n'ai fait qu'obéir. » Ou « Je n'ai fait que faire comme tout le monde. » C'est donc quand même dans notre société de grand conformisme publicitaire, de grand conformisme d'opinion, il y a en même temps une réaction extrêmement saine des sociétés démocratiques, qui consiste à dire que même dans les États totalitaires, le principe de responsabilité personnelle doit jouer et joue. Parce qu'un homme, c'est toujours un homme, et qu'un homme se définit par sa liberté et sa conscience. C'est ça l'optimisme le plus fondamental. C'est ça qui fait que l'humanité n'est pas une termitière. Et qu'elle n'est pas... Même quand on réduit les hommes en les mettant au pas ou en voulant les juguler et brimer leur liberté. Car la liberté, c'est pas seulement le pouvoir de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, je vous l'avais déjà expliqué cela, mais c'est précisément de me déterminer pour le bien, quels que soient les obstacles et quelles que soient les difficultés que je rencontre pour cela. L'homme, c'est l'animal qui est capable librement d'aller à contre-courant des déterminismes, et de faire face. Et de faire face pour le bien, et pour l'amour, et pour le don. Alors, revenons maintenant au problème des couples. Je voudrais commencer à réfléchir à cette même question en revenant sur un passage d'évangile que nous avons entendu il n'y a pas très longtemps, un des dimanches de cette année-ci, c'est dans Saint Marc, au chapitre 10e, à propos du divorce. Et là, c'est un peu en contrepoint de ce que je viens de dire sur les mœurs et la liberté, sur les déterminismes et la liberté, mais pris un peu sous un autre angle. Vous allez voir, je crois que ça va nous faire avancer un peu dans notre propos. Je vous lis le texte. Alors je vous signale, c'est Saint Marc, au chapitre 10e, à partir du verset 1, jusqu'au verset 12. Je ne vais peut-être pas le lire d'un coup, je vais en lire quelques versets, puis les commenter au fur et à mesure. Voilà que Jésus s'en va en Judée, et là, il trouve des foules qui se rassemblent autour de lui, qui les enseignent, et puis il y a les savants, les gens compétents, qui essayent de, qui sont un peu, qui veulent le mettre à l'épreuve, lui tendre un piège. C'est pas gentil, mais parmi ceux qui tendent un piège, au fond, c'est le coincer un peu, voir ce qu'il a dans le ventre. Quand les journalistes, même amis et bienveillants, me posent une question chausse-trappe, c'est pas forcément par méchanceté, c'est pour voir comment je vais m'en tirer. Et au fait de même, je crois qu'il y a de la méchanceté. Il y a la volonté de, parfois, je parle des interlocuteurs de Jésus, il y a la volonté de tendre un piège, enfin de mettre en mauvaise position. Et puis il y a aussi la curiosité, parce que parfois la question se pose vraiment et on a envie de voir comment il va s'expliquer, surtout ce Jésus. Bon, ce Jésus dont personne ne sait qui il est alors qu'on sait d'où il vient. Ce Jésus qui parle comme jamais aucun homme n'a parlé. Ce Jésus dont les apôtres déjà commencent à dire et à confesser qu'il est le Messie, ce Jésus qui monte vers Jérusalem, car c'est ainsi qu'il en est question dans saint Marc. Il lui demande s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Alors voilà la question. Hein. Est-il permis à un homme de répudier sa femme? La question est très précise. C'est, je répète, hein, est-il permis de répudier sa femme? Alors Jésus répond, qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? Alors Jésus ne dit pas ce que Dieu vous a prescrit, mais il joue un peu sur ce que représente la révélation de la volonté divine dans les commandements de Dieu. Car il prend le messager pour le message. C'est pas trop compliqué ce que je dis ? Il aurait pu dire, qu'est-ce que Dieu vous dit dans la Bible? Qu'est-ce que Dieu vous dit dans ses commandements? Mais il fait exprès de dire, qu'est-ce que Moïse, c'est-à-dire celui qui vous a transmis les tables de la loi, la révélation, la volonté de Dieu, les commandements de Dieu, cette loi qui est votre liberté et votre amour. Qu'est-ce que Moïse, et il ajoute, vous a prescrit. Prescrit. Alors que... Bon, alors que la question posée, c'est, est-il permis à un homme de répudier sa femme? Alors ils disent, Moïse a permis d'écrire un certificat de répudiation et de renvoyer sa femme. Alors vous voyez que c'est eux qui sont tombés dans le piège que Jésus leur tendait. Parce que, qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? Vous a ordonné. Moïse ne pouvait rien ordonner de lui-même, quelle que soit son autorité, sa grandeur. Ce qu'il ordonnait, c'était la loi de Dieu. C'était les commandements de Dieu. Et ce n'est pas l'autorité de Moïse qui est en jeu, c'est Dieu qui parle. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas de faux témoignages. Tu ne commettras pas d'adultère. Ces commandements ne sont pas les commandements de Moïse, c'est les commandements de Dieu. Ce n'est pas Moïse qui dit « Moi, je vous dis de ne pas tuer. » Ou « Moi, je vous dis de ne pas blasphémer le nom de Dieu. » Les commandements commencent par « Je suis le Seigneur votre Dieu. » Voilà ce que rapporte Moïse. Alors c'est bien Moïse qui le dit, puisqu'il est l'intermédiaire, et qu'il dit aux enfants d'Israël « Voilà ce que le Seigneur vous dit. » Deux points, ouvrez les guillemets, et Dieu parle par la bouche de son prophète, ce qui est normal. Et il y a comme un témoignage divin, par ce signe des tables de la loi, que cette parole n'est pas seulement une parole de Moïse, mais qu'elle vient de plus haut que lui. Et puis, à d'autres passages, Moïse, qui était chargé de guider le peuple, il a donné des règles pratiques, il y a ajouté, je ne dis pas qu'il a ajouté quelque chose de plus que ce que Dieu lui a dit, mais il a fatalement essayé d'expliquer, de voir comment on pouvait se gouverner. Par exemple, il y a des conseils d'organisation qui sont le fait de Moïse, la Bible même nous le dit. Quand il n'arrive pas à gouverner ce peuple parce que c'est une trop grande foule, il y a Jéthro, son beau-père, qui lui dit « Écoute, tu sais pas t'y prendre, voilà comment il faut faire, tu vas faire venir des hommes sages, tu vas en prendre 70, puis tu vas les répartir et tu vas organiser le peuple. Ben, c'est Moïse qui le fait. Mais il le fait comme un saint homme de Dieu pour obéir à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que son peuple avance dans le désert, se conforme à sa volonté sainte et entre dans la terre promise. Et donc ce que Moïse décide, il le décide pas arbitrairement, il le décide avec sa sagesse, avec les conseils de son beau-père, ce qui est quand même bien qu'il l'écoute, et puis ce qui permet à structurer le peuple. Et ces 70, rappelez-vous, ça va compter dans l'enseignement de Jésus, puisqu'il y a les 12 apôtres pour les 12 tribus, et les 70 disciples que Jésus envoie, comme Moïse a constitué les 70 vieillards, les 70 sages, qui vont l'aider à gouverner les 12 tribus d'Israël. Bon. Alors, eux répondent, Moïse, Jésus a demandé, qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? Et ils disent, Moïse a permis d'écrire un certificat de répudiation et de renvoyer sa femme. Donc ils ne répondent pas à la même chose. Dans la question de Jésus, ça voulait dire, qu'est-ce que Moïse vous a dit que Dieu vous commandait? Et eux répondent, Moïse nous a donné la permission de répudier, d'écrire un certificat de répudiation et de renvoyer sa femme. Alors, il faudrait chercher dans la Bible pour savoir pourquoi Moïse a dit ça. Ben, Moïse a dit ça pour parer à la condition de la femme qui est dans ces sociétés, n'avait pas de statut civil, si j'ose employer cette comparaison un peu anachronique. Elle était sans droit, aucun droit. Une femme répudiée, c'était plus rien du tout, puisqu'elle avait été achetée à sa famille, à son père et à sa mère, par une dot, et puis une dot que le mari devait payer pour acquérir la femme. Puis s'il la renvoie, c'est comme s'il jetait quelqu'un à la rue. Il le jette, puis c'est terminé. Et le certificat de répudiation, c'est une manière pour Moïse de faire respecter un autre commandement de Dieu. C'est que chacun doit être aimé, respecté pour lui-même. Et donc lui donner un certificat, c'était au moins lui donner un statut social et la défendre. Et lui permettre d'exister. Et de ne pas être considéré comme une chose, ou comme une loque, ou comme quelqu'un qu'on jette. Bon, alors, une fois qu'ils ont dit ça, ils se sont pris au piège, vous avez bien compris, hein. Et à ce moment-là, Jésus dit, c'est à cause de votre cœur dur qu'il a écrit pour vous ce précepte. Mais au commencement du monde, Dieu les fit homme et femme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. La semaine prochaine, si vous voulez, nous reprendrons cette fin du dialogue et nous verrons comment ça peut s'appliquer, de quelle façon, à ce que je vous disais au début sur les mœurs et la liberté, sur les conditionnements et la liberté, sur les mœurs et la morale. À la semaine prochaine.